Fabien Roussel, vous êtes tête de liste de l'Humain d'abord, une liste citoyenne qui rassemble des composantes du Front de Gauche, le Parti communiste et Ensemble, Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire. C'est un peu compliqué pour que le citoyen s'y retrouve. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas une liste commune dès le premier tour de toute la gauche dans notre région qui est plutôt divisée ?
Mais parce que à gauche, nous ne sommes pas tous faits du même bois. Vous savez, c'est comme dans un meuble, il y a différents bois, il y a du bois dur, il y a du contreplaqué, il y a du bois tendre. Et pour que le meuble il tienne bien debout, eh ben, il lui faut un bon chêne massif à la base. Eh ben, le chêne, c'est nous. Et je prends cette image un peu figurée, peut-être un peu rapide, mais c'est pour dire que nous représentons une sensibilité à gauche qui est importante, surtout quand on voit la politique qui est menée par ce gouvernement. Et nous portons les vraies valeurs de la gauche qui se bat, une gauche combative, sincère, honnête. C'est la liste du Front de Gauche que je conduis.
Comme beaucoup, vous partez aussi en guerre contre le chômage. Qu'est-ce que vous préconisez pour redynamiser économiquement notre région ?
Eh bien, la première richesse de cette région, ce sont les hommes et les femmes qui y habitent. La jeunesse, nous sommes la région la plus jeune de France, et notre force de travail. Nous sommes une région industrielle, nous avons des atouts incommensurables dans ce domaine, avec cette façade maritime, cette ouverture sur Paris, maintenant avec la Picardie, ce plat pays qui permet le transport par ferroutage, par voie fluviale, ce qui est bon pour les entreprises. Mais surtout, nous sommes une région travailleuse, ouvrière. Ça nous est reconnu. Et pour cette raison, nous demandons à développer l'industrie, réindustrialiser notre région et notamment relocaliser un tas d'entreprises, d'industries qui sont parties dans des pays à bas coût et que nous demandons à ce qu'elles reviennent ici. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'économie.
Alors, en ce qui concerne la culture également, vous affirmez qu'elle est un facteur d'émancipation. Vous prenez exemple aussi sur le livre blanc de la culture. Vous pouvez donner quelques précisions ?
Mais écoutez, aujourd'hui, les politiques culturelles sont terriblement menacées à cause des baisses de dotations que ce gouvernement impose aux collectivités, aux communes, aux intercommunalités, aux départements, aux régions. Le risque est grand que demain, l'ensemble de ces collectivités, qui représentent 70% quand même des financements des politiques culturelles, fassent des économies dans la culture. Et dans notre pays, dans notre région, ce n'est pas bon. La culture, c'est le spectacle vivant, c'est aussi des écoles de musique, des écoles d'art, des écoles de danse qu'il y a dans les communes. Elles sont menacées aujourd'hui parce que les communes n'ont plus les moyens de répondre à tous ces besoins, parce qu'on leur supprime des subventions d'État. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à maintenir les subventions culturelles et à aider les communes à développer leurs écoles de musique, de danse et d'art.
Votre avis aussi sur les grands enjeux de la région, je prends comme exemple Canal 7 Nord ou encore la troisième révolution industrielle, vous en pensez quoi ?
Le Canal 7 Nord, c'est un atout pour notre région si les investissements nécessaires sont faits afin de permettre la circulation des péniches à grand gabarit de Dunkerque vers Seine Nord. Sinon, ce canal, ça va être une autoroute fluviale entre Paris et la Belgique et on va voir les péniches passer sans aucun intérêt pour l'emploi chez nous. Pour que ça serve l'emploi, pour que ça serve nos entreprises et notre façade maritime, il faut que les péniches puissent passer de Seine-Nord vers Dunkerque et il y a là donc des travaux importants à faire. Ils sont indispensables. Et Seine-Nord, pour le faire, c'est 10 à 15 000 emplois. Nous nous battrons pour que ces emplois soit des emplois locaux, zéro travailleur détaché, ça c'est une exigence. Et puis bien sûr, il y a le coût écologique et nous ferons les études nécessaires afin de faire en sorte que ce canal ait l'impact le plus faible possible pour notre environnement.
En ce qui concerne aussi les services publics, vous indexez aussi le fait des transports efficaces, modernes, qui ne délaissent personne ni aucun territoire, à des tarifs accessibles ou gratuités pour les scolaires. Comment comptez-vous mettre ça en place ?
La région a dans ses compétences la compétence transport. C'est d'ailleurs même le premier budget de cette région. Donc d'abord, nous refuserons tous les désengagements de l'État et de la SNCF qui envisagent de supprimer des lignes et de les transférer à la région. Ça, c'est inadmissible. Ça coûte déjà un gros budget dans le budget de la région et l'État et la SNCF devront jouer pleinement leur rôle. Ensuite, dans les conventions qui sont signées actuellement en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, demain, il n'y en aura plus qu'une. Nous demandons à harmoniser ces conventions vers le haut avec ce qu'il y a de mieux dans chacune des régions. Et notamment, nous proposons de faire en sorte que pour l'environnement, pour lutter contre la pollution et pour permettre à nos jeunes d'accéder, d'aller à l'école ou de chercher du travail. Nous proposons de rendre la gratuité pour les scolaires, pour les jeunes jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est aussi une manière de défendre la gratuité de l'école et d'aider nos jeunes et de lutter contre la pollution.
Vous mettez aussi l'humain dans votre programme à part entière et vu la situation en ce moment des migrants à Calais, vous avez dit vouloir faire appel à l'armée. Expliquez-nous un peu comment vous allez établir ce recours.
Parce que, en fait, la vision que j'ai de l'armée, c'est dans le cadre de ses missions humanitaires. Il ne faut pas voir que l'armée avec le fusil et la baïonnette. Quand il y a un tremblement de terre à Haïti, par exemple, on a fait appel à l'armée qui est allée là-bas pour héberger les personnes, installer des toilettes, des douches, des bivouacs, des campements. Et je pense que l'armée peut aussi jouer un rôle humanitaire. Et c'est le seul moyen de l'État efficace, rapide, qui peut permettre d'accueillir dignement ces familles qui sont aujourd'hui à Calais, qui fuient la guerre. Ce sont des victimes de Daesh. J'y suis allé, j'ai vu des femmes, des enfants dans le dénuement le plus complet. Il est important qu'ils aient des points d'eau, qu'ils aient des toilettes, qu'ils aient des moyens des douches, qu'ils puissent dormir convenablement. C'est inadmissible que l'État laisse se développer cette jungle, on appelle ça une jungle, à notre porte. Et puis en plus, le Calaisie est un territoire où le taux de chômage est très élevé. C'est pas la population du Calaisie, la commune de Calais, les villages alentours, qui doivent apporter des réponses. C'est à l'État. Et l'État peut le faire en demandant à son armée de jouer cette mission humanitaire, comme nous savons le faire quand parfois il y a des accidents dramatiques dans le monde.
Vous voulez aussi que les richesses produites par la région reviennent ici pour y être investies. Vous comptez créer une banque publique d'investissement pour développer l'économie régionale. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous entendez par là ?
Écoutez, tout simplement, c'est que les banques, elles jouent pas leur rôle. Les banques, elles ont l'argent de nos salaires, de nos pensions, des retraites, mais elles prêtent pas, ou peu, et à des taux très élevés. Eh bien, si les banques ne font pas leur boulot, nous créerons une banque publique de crédit et d'investissement. Comme les banques privées nous emprunteront auprès de la Banque Centrale Européenne, qui prête à des taux quasi nuls, sauf que les banques privées, ensuite, elles nous reprêtent cet argent, quand elles prêtent, à des taux très élevés. Eh bien, nous emprunterons à ces taux quasi nuls auprès de la Banque Centrale Européenne. La région prendra en charge les intérêts et nous prêterons à taux zéro aux communes, aux villages, aux départements, aux hôpitaux publics pour investir, pour répondre aux besoins. Nous avons l'ambition d'injecter comme ça 3 milliards d'euros dans l'économie. Ça change complètement de logique. On nous parle d'économie, de contraintes budgétaires, d'austérité. Eh bien nous, on veut parler d'investir, de créer, de soutenir, de développer. On change complètement de logique.
Pour la région, avec cette réorganisation territoriale, est-ce que vous pensez que la Picardie, maintenant qui fait donc partie du Nord et du Pas-de-Calais, est un bonus pour ces élections ?
Mais bien sûr, parce que la Picardie, c'est un peu nos cousins. On peut additionner nos différents atouts. Nous leur apportons une façade maritime. Eux nous apportent cette ouverture vers l'Île-de-France. Et donc nous sommes au cœur de l'Europe, nous devenons première région pour l'industrie automobile, les constructeurs sont chez nous, il y a beaucoup d'équipementiers de sous-traitants chez eux, au contraire, moi je demande à ce que l'argent public dépensé par l'État, notamment au travers du CICE, le contrat impôt compétitivité emploi, soit mis au service de la réindustrialisation de notre future grande région et que l'on relocalise les activités ici, ce sera bon pour les Picards comme pour les Ch'tis et ça c'est du bonus pour tout le monde. Nous sommes la première région pour les jeunes avec 33% d'habitants de moins de 25 ans. Nous avons la possibilité d'offrir un avenir pour tous. On a besoin d'ingénieurs, d'ouvriers qualifiés. On a besoin de mettre plus de monde dans nos services publics pour l'aide à la personne. On a besoin et de répondre aux besoins et on a plein d'atouts entre nos mains. Et donc, il n'y a plus qu'à donner les moyens à cette région de se développer.
Et enfin, pour la région, pour ces élections, vous vous attendez de la part des citoyens plutôt à une forte abstention, un vote sanction ou un vote d'espoir ?
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de colère. Je pense qu'il y a beaucoup de colère chez les électeurs. Je la comprends, je la partage. J'ai rencontré des ouvriers qui travaillent mais qui gagnent pas assez pour vivre décemment. J'ai rencontré des retraités à qui on a fait les poches depuis Sarkozy jusqu'à Hollande. J'ai rencontré beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté Hollande et qui sont tellement déçus par la politique qui est menée. Je pense que le 6 décembre prochain, justement, on peut faire déjouer tous les pronostics des bonimenteurs et de ceux qui disent que cette région va passer à l'extrême droite. Justement, si toutes ces personnes déçues expriment leur colère, mais en votant, en remettant de l'espoir dans les urnes, plutôt que de la colère pure et dure, on peut redonner de l'espoir à cette région, on peut mener une vraie politique de gauche, et c'est nous qui portons.